This is Radio France International.
De Paris, RFI,
$1,000.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde pour les temps forts de l'actualité de la semaine avec le regard des rédactions du Monde de Radio France Internationale. Pour la rédaction en anglais, Angela Diffley.
Hello Philippe.
Miguel Martins pour la rédaction lusophone.
Boutard.
Et Aziz Armatfard pour la rédaction persane.
Salam Duroud.
Bonsoir à vous tous. Alors l'actualité est toujours fortement marquée par ce référendum en Catalogne et ses conséquences, la crise entre Barcelone et Madrid. Aujourd'hui, les dirigeants séparatistes catalans poursuivis pour sédition restent en liberté. Le préfet, lui, s'excuse au nom des policiers pour les blessés lors du référendum. Le gouvernement espagnol dit souhaiter des élections en Catalogne pour mettre fin à la crise. Et la Suisse se dit prête, elle, à jouer les médiateurs entre Madrid et Barcelone. Sans parler de ces entreprises, à commencer par des banques qui sont inquiètes au point de vouloir quitter tout simplement la région, Angela Diffley.
Oui, notre correspondant à Barcelone, Sarah Morris, nous a parlé cette semaine des banques qui commencent à quitter la région. Et elle nous a parlé de l'inquiétude des clients.
It's simply because there's a lot of people who are very worried. They say they're getting a lot of calls and contacts.
Quels sont précisément ces arguments?
Elle explique qu'il y a un tel manque de clarité que les gens ne savent pas que faire. Et ça nous rappelle un peu, nous, dans la rédaction anglophone, le référendum en Écosse où également il y avait ce manque de détails sur le plan économique. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a une éventuelle sécession de Catalogne?
Oui, on sait bien que les banquiers et les économistes, les financiers ont horreur de l'incertitude. Alors, ce qui se joue actuellement intéresse beaucoup ailleurs dans le monde, partout dans le monde, car les autonomistes, les indépendantistes de tout poil espèrent y trouver valeur d'exemple dans ce référendum catalan. Avec les rédactions de RFI, donc faisons plusieurs focus. Avant cela, Aziz Fard, un point sur ces revendications d'indépendance à travers le monde.
Oui, en Iran, en Afghanistan, ça a un écho. Nous pouvons commencer peut-être par écouter le son de Saïd Mahmoudi, qui est professeur de droit international d'origine iranien.
Que dit-il?
Donc c'est un professeur des droits internationaux. Il explique que dans le cadre du droit international, il est prévu que le pays anciennement colonie sorte de la domination par un processus légal, mais que pour les autres pays, rien n'est prévu. Le droit international fait silence. Et donc, pour un pays comme l'Irak, si les Kurdes voulaient l'indépendance, il faudrait partir ou bien du droit national ou alors sortir du cadre légal.
C'est du cas par cas. Il n'y a pas de système qui se reproduit de pays en pays. À chaque fois, les autonomistes, les indépendantistes doivent user de leurs propres arguments. Avec la rédaction lusophone Miguel Martins, le Portugal partage la péninsule ibérique avec l'Espagne. Comment perçoit-on cette crise donc depuis de l'autre côté de la frontière?
Bon, il y a d'abord la position officielle d'un pays qui tient évidemment à ne pas froisser la sensibilité du grand voisin espagnol, voisin avec lequel il partage ses seules frontières terrestres, donc un partenaire européen et économique fondamental. Les autorités politiques de Lisbonne estiment ainsi que la question catalane est un sujet de politique intérieure espagnole. Le gouvernement et le président portugais rappellent leur attachement au respect de la souveraineté nationale. Par ailleurs, nombre d'indépendantistes catalans ont souvent envié aux Portugais d'avoir été le seul peuple ibérique qui a réussi à s'émanciper de la tutelle de Léon et Castille. Au XIIe siècle, évidemment, l'Espagne en tant que telle n'existait pas. Mais un premier comté finira par s'autonomiser par rapport à ces deux royaumes du centre de la péninsule ibérique. Et ce, au gré des guerres de la reconquête chrétienne. Le Portugal est donc né, c'était en 1143. Il s'agit là d'un, l'un des plus anciens états d'Europe.
Alors le Portugal qui entretient aujourd'hui, on va revenir à l'époque contemporaine, des relations très proches avec cette région espagnole, la région espagnole de la Galice.
Absolument, ça tient notamment à des questions linguistiques. Cette région du nord-ouest de la péninsule, le galicien est le socle de la langue portugaise. Ainsi, encore hier, une manifestation de soutien avec les Catalans s'est tenue à Porto, la deuxième plus grande ville du Portugal, justement dans le nord. Plus de 200 personnes ont appelé à la démission du Premier ministre espagnol, tenu pour responsable de l'escalade de la tension. Les manifestants se disaient choqués par la répression de l'État espagnol contre les indépendantistes catalans. Parmi eux, José Suelo, qui est député du parti portugais Bloc de Gauche. Je vous propose de l'écouter.
As instituições catalãs disseram que iam declarar a independência e o Estado espanhol já mandou tanques, já mandou...
Que diz o deputado português, Miguel?
José Suelo rappelait que comme les autorités catalanes menacent de déclarer leur indépendance, Madrid s'est empressé déjà d'envoyer des chars et l'armée en Catalogne. Par rapport à l'extrême gravité des événements, on ne peut plus se contenter de dire que cette situation explosive relève seulement des compétences du Royaume d'Espagne. Il en appelle donc à l'État portugais, à l'Union européenne. Pour ce député portugais, il s'agit d'un processus absolument inouï en Europe. Selon lui, à bien des égards, l'État espagnol a déjà perdu la Catalogne. Et cela serait imputable aux gestes et décisions pris par Mariano Rajoy, le Premier ministre espagnol, qui aurait fait le pari de la répression du droit des Catalans à décider de leur autodétermination.
Alors pour ce qui est de la Catalogne en tant que telle, la rédaction lusophone de RFI a pu joindre un certain nombre de personnes qui ont pu s'exprimer sur son bras de fer avec Madrid.
En effet, je vous propose d'écouter l'un d'entre eux, Osvaldo Veracruz, depuis Barcelone. Donc, cet habitant de la capitale catalane, originaire d'un petit archipel lusophone d'Afrique équatoriale, Saint-Thomas et Principe, nous disait que certes, il y avait déjà une relation teintée de haine entre Barcelone et Madrid, mais depuis la répression dimanche par les autorités espagnoles du référendum pour l'indépendance catalane, tous ceux qui étaient restés à l'écart de ce débat ont rejoint en grande mesure le camp de l'indépendance. Le prix de cette indépendance sera très élevé, dit-il, mais après tout, cette violence, les Catalans sembleraient prêts à l'assumer.
Autre endroit du monde qui surveille de très près ce qui se passe en Catalogne, c'est l'Écosse. Vous en parliez tout à l'heure, Angela Diflet.
Oui, pour rappeler à nos auditeurs, l'Écosse, en 2014, il y a eu un référendum. Les Écossais ont choisi de rester avec la Grande-Bretagne. Depuis, on a eu le Brexit et il est question peut-être d'avoir un référendum, on verra. Mais il y a beaucoup de similarités. Ce sont des régions riches. Et vu de l'extérieur, leur revendication peut surprendre. C'est vrai que les Catalans et les Écossais, ni les Catalans ni les Écossais sont de la vie générale des gens opprimés. Ils ont une culture et une langue très évidents quand on visite en Catalogne, la scolarité est même livrée en catalan. Et, mais il y a quand même cette revendication pour l'indépendance. Et ce sont des situations difficiles pour les gouvernements à régler. C'est vrai qu'en Catalogne, l'intervention musclée de la police a exacerbé le problème. Mais en Catalogne, c'est vrai qu'entre l'autonomie assez importante qui existe déjà à l'indépendance, on se demande qu'est-ce qui changerait.
Autre point de vue, c'est celui de la rédaction persane, Aziz Fard, à propos de ce référendum de Catalogne qui a eu lieu juste après celui organisé au Kurdistan, qui est donc dans votre zone d'écoute, on va dire. Et donc, Afghans et Iraniens sont particulièrement attentifs à ce qui se passe en Espagne.
Oui, commençons par l'Iran. L'Iran, c'est un pays qui intègre dans son territoire une grande partie du Kurdistan. Et donc... le référendum au Kurdistan d'Irak, ça fait peur aux Iraniens.
Avec un oui, comme pour la Catalogne.
Il se pose le problème de l'intégrité territoriale, qui est quelque chose qui est un peu un dogme dans tous ces pays. Ce qui fait que la plupart, pratiquement tous les responsables politiques de tous les bords, pratiquement, ont vu avec un mauvais œil ce référendum kurde. Et ils tenaient surtout à rester une nation solide. Et donc, celui du Catalogne donne une certaine légitimité a posteriori. au référendum des Kurdes, et donc c'est encore plus, ça rend les choses encore plus graves du regard des Iraniens.
Et bien évidemment, vous suivez tout cela dans vos zones d'écoute respectives de très près, sachant que ce qui se passe en Catalogne est observé partout ailleurs dans le monde. Vous écoutez Accent du Monde sur RFI.
20
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
C'était les coups de feu tirés sur la foule à Las Vegas, plusieurs dizaines de morts. Fusillade donc à Las Vegas qui a suscité la peine, la sidération et la colère, car l'homme était surarmé, un arsenal d'armes de guerre retrouvé dans sa chambre d'hôtel. Et puis chez lui, en Europe, Angela Diffley, il y a toujours le même étonnement concernant le rapport que les Américains ont avec les armes, particulièrement concernant la Grande-Bretagne. Quelle est la réaction ?
Oui, les Britanniques sont souvent vus comme les cousins des Américains, mais les Britanniques n'ont absolument pas le même rapport par rapport aux armes que les Américains. À la rédaction en langue anglaise, nous avons contacté le National Rifle Association britannique, donc qui n'a rien à voir avec l'organisation du même nom aux États-Unis. Écoutez.
You're talking to the country where who has in Europe probably the most restrictive firearms legislation.
Donc Andrew Mason nous explique que les lois sur le port d'armes en Grande-Bretagne, les lois sont parmi les plus strictes d'Europe. Et ça, c'est parce que les lois ont changé pendant les années 90 après l'assassinat de 16 enfants et leur prof dans une école primaire en Écosse, qui a choqué profondément le pays. Et donc, on a changé les lois assez rapidement et dramatiquement juste après cet événement.
En Australie maintenant, qui est un autre pays anglo-saxon et qui est à cheval finalement, on va dire, entre la Grande-Bretagne et les États-Unis.
Oui, c'est une comparaison plus intéressante en fait, parce que les Australiens et les Américains, ils ont un peu la même culture par rapport au port d'armes. Les deux pays ont une culture assez rurale et une histoire et une liaison avec les fusils qui n'existent pas en Angleterre. Mais les Australiens, il y a quelques années, ont fait ce qu'on a appelé une amnesty, où tout le monde a rendu, ou beaucoup de gens ont eu la possibilité de rendre leurs armes sans être poursuivis, et c'était un grand succès. Donc c'est difficile de voir la différence entre la mentalité des Américains et des Australiens, mais l'attitude aux États-Unis est, comme on le sait tous, n'est pas tout à fait pareille. Ils sont très divisés là-dessus, plus que les Australiens.
Est-ce que en Australie, il y a des réactions, on va dire, compréhensives malgré tout, en disant, bah voilà, on est dans l'idée du Far West, on a besoin de se défendre. Puisque vous parliez de conjonction entre ces deux cultures.
Exactement, c'est sûr que ça joue. Ce sont des pays où il y a des gens qui vivent vraiment au milieu de nulle part, qui peuvent être attaqués par des animaux et qui ont une culture où il faut se défendre. Loin dans l'histoire, mais ça reste dans la mentalité. Mais les Australiens ont choisi un chemin différent qui a l'air de plaire.
Et j'ajoute que c'est un fait nouveau et peut-être une petite avancée. La Maison-Blanche et des élus républicains, aujourd'hui, se sont dit prêts à discuter d'une interdiction des mécanismes qui transforment les fusils semi-automatiques en fusils automatiques. C'est ce dispositif qui a permis aux tueurs de Las Vegas de multiplier le nombre de victimes. Et chose vraiment nouvelle, le puissant lobby des armes à feu NRA, dont vous parliez, mais côté américain, souhaiterait également réguler ce dispositif. Le nouveau président angolais vient d'être investi pour son tout premier mandat. Il y a un mois, Miguel Martins, nous avions abordé avec vous la controverse autour de son élection. Alors aujourd'hui, à quoi ressemblent les premiers pas du nouveau chef de l'État de ce grand pays d'Afrique australe?
João Lourenço, voici donc son nom. Il a été investi, c'était le 26 septembre, en présence de nombre de ses pairs africains. Pour l'occasion, même le président portugais avait fait le déplacement. L'ancien ministre de la Défense angolais a pris donc la suite de José Eduardo dos Santos à la tête justement de cette ancienne colonie de Lisbonne. C'était pendant 38 ans le cas. Depuis, Lourenço a nommé son premier cabinet, environ 30 ministres, dont beaucoup arrivent du gouvernement précédent.
Un mot sur le nouveau ministre des Affaires étrangères.
Voilà, il s'agit de Manuel Augusto. Il était jusque-là secrétaire d'État. Et un des premiers décrets du président portait sur l'obligation pour les nommés de présenter sous 30 jours leur déclaration de revenus en conformité avec la loi de la probité publique. Lourenço qui avait prévenu que la lutte contre la corruption serait une priorité. Je vous propose d'écouter un petit extrait de son discours d'investiture.
Pretendemos igualmente aprofundar o Estado democrático de direito, reforçando as instituições e propiciando.
Que disait le nouveau président angolais?
En résumé, João Lourenço parlait de sa détermination à renforcer l'état de droit avec une plus grande ouverture à la société civile. La décentralisation et l'ouverture au pouvoir local par le biais d'élections municipales font également partie de ses priorités. Et là, ce serait inédit. Tout ceci passerait par l'indispensable diversification de l'économie. Quand on sait que l'Angola, comme le Nigeria, ou l'Algérie, pour ne citer que quelques pays producteurs, est encore très dépendant de la rente pétrolière.
Alors il y a des priorités hein, formulées par le nouvel homme fort angolais, qui succèdent aux 38 années de pouvoir de José Eduardo dos Santos. Alors est-ce qu'il aura les coudées franches pour gouverner et se démarquer de son prédécesseur, Miguel?
Voilà toute la question, Philippe. Il ne faut pas oublier que dos Santos demeure président du MPLA, le parti au pouvoir. Lui qui annonçait quitter la politique l'année prochaine, nous verrons. En attendant, nombre de secteurs pensent que l'on est en quelque sorte devant un bicéphalisme du pouvoir.
D'autant plus que la famille dos Santos tient des postes on ne peut plus stratégiques dans le pays.
Ah oui. L'un de ses fils, José Filomeno dos Santos, est à la tête du fonds souverain et ce alors que l'une de ses filles, Isabelle dos Santos, qui d'après Forbes serait la femme la plus riche d'Afrique, dirige elle la compagnie pétrolière, la Sonangol. Ainsi, Stenio Antonio, qui est professeur universitaire angolais, admet que les choix du nouveau gouvernement de João Lourenço vont plutôt dans le sens d'une continuité.
Apostou na continuidade do seu antecessor. Também não tinha.
L'analyse de cet économiste, il nous disait que le nouveau chef d'État n'avait pas d'autre choix que de continuer avec les mêmes gens. Ça aurait été trop périlleux, dit-il, de faire venir de nouveaux visages en créant une rupture avec le passé. Le pays n'a jamais été confronté à ce cas de figure où le chef de parti n'est pas également le président de la République. Il fallait bien que les personnalités nommées par le nouveau président aient reçu le consensus des deux hommes, conclut. Miguel Martins de la rédaction portugaise de RFI. Quant à la rédaction persan, elle s'est particulièrement intéressée à un rapport d'Amnesty International, lequel critique l'expulsion d'Afghans venus en Europe pour y demander l'asile politique. Alors première chose, Aziz Fard, combien sont-ils dans ce cas?
Oui, commençons par les deux chiffres. 3290 Afghans ont été expulsés en 2015 et 9460, c'est-à-dire trois fois plus en 2016. Il s'agit pour Amnesty de retour forcé vers un pays en danger.
Pourtant, entre le gouvernement afghan et l'Europe, il y a un accord.
Oui, fin 2016, un accord est signé entre le gouvernement afghan et l'Union européenne pour les pays européens qui sont sous la pression de l'opinion publique, en fait, suite à l'immigration de beaucoup de Syriens. Il s'agit d'obtenir une sorte de bénédiction de la part du gouvernement afghan pour expulser un certain nombre de ressortissants de ce pays dans des conditions, si on peut dire, à peu près dignes. Or, l'Amnesty International met en doute le caractère librement consenti non seulement des expulsions, bien sûr, mais aussi de cet accord. Le gouvernement afghan aurait été sous pression pour signer cet accord. On a même appelé cet accord le verre de poison que le gouvernement afghan a dû boire sous pression des pays, en fait des pays qui aident l'Afghanistan, des contributeurs.
Et oui, et surtout que ça fait 17 ans que la communauté internationale soutient ce pays, l'Afghanistan.
Oui, et pourtant la situation s'empire depuis 2015, l'insécurité a gagné du terrain, la guerre s'étend, l'Afghanistan c'était déjà l'enfer, mais c'est devenu encore un peu plus. L'enfer, il y a la guerre depuis 40 ans, et la misère aussi. Le pays, c'est un pays montagneux, désertique, et il y a l'obscurantisme qui prive en plus les Afghans de la liberté, donc dans ces situations, l'Afghanistan est un pays à plaindre, en fait.
Et qui n'a jamais vraiment trouvé son identité, pour quelle raison?
En fait, Lorsque, en 2001, il y a eu le nouveau gouvernement, le nouvel État afghan a été établi sur les fondations de l'ancien régime. On a voulu ressusciter le roi, en quelque sorte. Les Européens avaient une image un peu positive, romantique du roi. Or, nous savons que les décennies du règne de Zahir Shah, c'était dur, surtout la dernière décennie où on a ouvert un peu le champ politique. On a vu que c'est un pays à problème.
Aziz Fard de la rédaction en persan de Radio France Internationale. C'était Accent du Monde, merci à vous tous. Dans quelques instants, l'essentiel de l'actualité du monde sur RFI.